Bonsoir et bienvenue dans l'écho de l'été. Chaque samedi, nous recevons un acteur économique ou un passionné d'économie qui nous aide à comprendre ce qui s'est passé d'incroyable cette année et surtout ce qui va se passer demain. Notre invité répond à mes questions, puis à celles d'étudiants présents dans le studio que je salue. Bonjour à eux. Aujourd'hui, ils viennent de l'Académie ESJ de Lille, de Sciences Po Aix, de l'ESSEC et de Sciences Po Paris. Et ce soir, l'écho de l'été, c'est lui, Arnaud Montebourg. Bonsoir Arnaud Montebourg.
Bonsoir Dominique Seux.
France Inter. L'écho de l'été, Dominique Seux.
Alors Arnaud Montebourg, tout le monde vous connaît. En politique, vous avez été député, président d'un conseil départemental, autrefois on disait conseil général, ministre de l'économie et du redressement productif entre 2012 et 2014. C'est un certain Emmanuel Macron qui vous a remplacé. Depuis, vous êtes entrepreneur. Alors dites-nous d'abord dans quel secteur et quelle est l'ampleur de votre activité, de vos investissements peut-être.
J'ai créé avec des hommes et des femmes de métier des marques équitables dans l'alimentaire. Parce que nous voyons bien que la question de la rémunération de l'agriculteur commence à intéresser le consommateur et que le consommateur est prêt à soutenir par son acte de consommation de plus en plus responsable, actif, activiste même, une meilleure rémunération du travail
alors
de l'agriculteur.
Dans quel secteur, dites-nous ?
Alors nous avons fait le miel, Bleu Blanc Ruche, nous avons fait la compagnie des amandes, où nous plantons 2000 hectares d'amandiers qui avaient disparu en France mais qui se reconstituent. Donc ce sont des vergers de 25 hectares sur toute la façade méditerranéenne en moyenne, 80 ouais. vergers. Et nous avons créé avec d'autres amis la glace La Mémère, qui est une glace bio produite par le paysan éleveur laitier lui-même. Sous la direction technique d'un meilleur ouvrier de France, artisan maître glacier. Donc c'est l'alliance des paysans et des ouvriers.
Combien de salariés, combien de chiffres d'affaires au total sur l'ensemble de vos activités pour que nos auditeurs aient une idée.
Ça fait à peu près, j'additionne des choux et des carottes, mais ça fait à peu près 13 personnes en tout d'emplois créés. Et puis direct, hein. Après, il y a les emplois directs dans les exploitations agricoles, ça va venir.
Et un chiffre d'affaires.
Et le chiffre d'affaires global, on est à 1,2 million si j'additionne tous les chiffres d'affaires, pour l'instant.
D'accord.
Après, deux années pleines, pas
ce
plus.
Ce qui est vrai, c'est qu'une conversion dans ce sens-là, c'est honnêtement assez rare. Dans l'autre sens, de l'économie vers la politique, il y en a quand même un certain nombre. Est-ce que vous êtes un entrepreneur, vous souffrez dans la crise ou pas?
Ah ben on s'est tiré les cheveux. Il y a eu des nuits blanches quand même parce que on a vu quand même s'arrêter pour Bleu Blanc Ruche. Nous avons explosé le site internet bleublancruche.fr. D'ailleurs, il fonctionne pour tous ceux qui nous écoutent.
Bon,
mais nous avons,
quand même,
mais
hein.
nous a, quand même, oui, mais un bon. Peu quand même. Mais nous avons perdu toute l'hôtellerie parce qu'elle est à l'arrêt.
C'est
et
ça.
Tout le B2B, c'est-à-dire tout ce qu'on proposait aux
donc
entreprises.
Donc vous avez dû prendre des mesures pour adapter votre activité.
Ah oui, on a pris des mesures de report des échéances du crédit, des loyers, des cotisations sociales. Je n'ai pas pris le prêt garanti d'État parce que j'ai dit à ma banque que tout ça c'est bien gentil, mais il va falloir le rembourser, donc je ne suis pas tout à fait pour. Je préfère trouver des nouveaux business et du chiffre d'affaires en plus, plutôt que me retrouver en situation difficile. Donc on a fait preuve d'ingéniosité avec
alors,
l'équipe.
On va y revenir. Nous vous avons invité ce soir parce que un certain nombre de Français et des auditeurs de France Inter évidemment aussi pensent que vous avez eu raison avant tout le monde, que vos idées au fond triomphent. Au niveau politique, vous avez porté un discours sévère sur la mondialisation. Or, dans cette crise, chacun le sait, on a manqué de masques, de médicaments, les échanges, les voyages ont accéléré, sans aucun doute, la pandémie. Tout le monde parle aujourd'hui de souveraineté, on rapatrie la production de paracétamol, mais évidemment, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce sont des mots ou est-ce qu'il y a une réalité? Y aura-t-il d'autres exemples de relocalisation qui ne soient pas anecdotiques? Bref, est-ce que c'est pas... La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que c'est pas un poncif quand même d'imaginer que le monde d'après sera vraiment différent du monde d'avant?
Il ne peut qu'être différent dans la mesure où il y a une prise de conscience très profonde, qui ne s'est pas encore traduite politiquement, mais qui commence à se traduire par le comportement d'achat, par exemple chez le consommateur, qui s'est traduit un tout petit peu quand même dans la montée de la question écologique. Il y a une prise de conscience. Et donc, à la fois le consommateur va commencer à réviser ses jugements sur la façon dont il s'alimente, la façon dont il se loge, la façon dont il se transporte, la façon dont il travaille. C'est une société qui va être un peu plus collective dans ce monde où l'individu est roi, où finalement ceux qui étaient les plus utiles sont les plus mal payés dans notre pays. Donc on se rend compte quand même que la hiérarchie des préférences sociales n'est pas la bonne. Donc là aussi, il y aura des révisions. La question des services publics a été, et de l'État qui intervient dans l'économie a été complètement révisée. La question des tabous financiers, vous savez, le gouvernement par les nombres, il faut 3% de dette, il faut tant de déficit, pourquoi, on ne sait pas, mais c'est comme ça. Bon, ben ça, c'est en train de sauter au plan européen et au plan mondial. Et donc, on est en train de reconstruire, peu à peu, un monde un peu plus conforme aux besoins de l'humanité. Vous Alors, il y a une reprise en main de l'humain sur l'économie, j'ai envie de dire.
Vous avez l'impression que c'est une interrogation ou une constatation française ou un peu au-delà ? Parce que, honnêtement, dans le monde entier, on n'a pas l'impression que ça aille complètement, qu'il y ait des remises en cause aussi fortes.
Les Français ont toujours de l'avance sur l'histoire, comme vous le savez. Mmh. Ils ont toujours, finalement, donné une tonalité dominante, à vocation universelle. Donc, les questions sur la mondialisation financière, on se les est posées en 2008, il n'y a pas eu de suite. Il n'y a pas eu de conséquences.
Voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir un doute
bien sûr,
sur les changements.
Il n'y a pas eu de conséquences. Mais là, lorsque vous avez le consommateur qui vote avec sa carte bleue, qui commence à décider de faire bouger ses modes alimentaires, quand dans les entreprises on passe des accords sur le télétravail, il y a aussi une autre manière de vivre que de s'entasser dans les métropoles et faire deux heures de transport par jour dans les RER pourris, excusez-moi. Ça, c'est une évolution de la société. Donc, est-ce que tout ça va faire sens à un moment ? Pour l'instant, ça ne l'est pas. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais
pour l'instant, non, mais ça va venir.
Mais
et vous
je
croyez.
Sens des tendances Alors, profondes dans la société.
On va rentrer dans le détail sur la mondialisation. Je vais vous faire entendre ce que disait samedi dernier Jacques Aschenbroix. Alors, c'est le patron de Valeo.
Que j'estime beaucoup, d'ailleurs.
Un très gros équipementier automobile. 150 usines dans le monde, rien. Mais... C'était dans l'émission On n'arrête pas l'écho. Il parle de la fragmentation de la production des pièces pour l'automobile. Écoutez-le.
Cette fragmentation, elle est historique et elle reviendra pas en arrière. Parce que c'est rationnellement économique, parce qu'il y a eu une massification des productions qui permet de réduire considérablement les coûts. Nos clients, si on leur dit, voilà, je suis prêt à rapatrier une partie importante de la production plus proche de vos usines, mais ça a un coût. Ce serait le coût du risque. Ils n'en voient pas l'intérêt. Ce sont les consommateurs, in fine, qui ont bénéficié de cette chaîne logistique et cette réduction des coûts liés à ces chaînes logistiques ne sont pas prêts à payer plus cher pour un produit qui serait localisé plus proche.
Et donc il nous dit, Jacques Aschenbroix nous dit, au fond, les consommateurs sont pas tellement prêts, donc il est pas exactement d'accord avec vous, et il nous dit, de toute façon, c'est le consommateur qui paiera, et ça, il voudra pas payer ses produits plus chers.
Ça dépend. Moi, je nuancerais la propos. Je crois que dans l'automobile, où la compétition est acharnée, elle est presque centimière sur chacune des pièces, des 5000 pièces qu'on assemble dans cet objet magnifique qu'est l'automobile, je comprends évidemment la position de l'équipementier automobile qui n'est même pas assembleur et qui est soumis à la pression de l'assembleur. Et donc, je ne peux pas lui donner tort s'agissant de sa stratégie type Valeo, qui est une sublime réussite française.
Donc, on peut néanmoins pas imaginer des relocalisations dans l'automobile, pour rester sur l'automobile une seconde.
On aura forcément. Pourquoi ? Parce que le prix que les constructeurs vont mettre à ce risque, mais pas que. Le risque, il est aussi sanitaire, il est aussi alimentaire, il est sur l'eau, il est sur les télécoms, il est sur la maîtrise de notre destin. Et les contribuables et les consommateurs vont décider de déroger au prix mondial. Qu'est-ce que la mondialisation ? C'est un prix mondial. Bon, avec du dumping social, du dumping environnemental. Il y a un moment, vous allez avoir des peuples qui vont dire, maintenant ça suffit, taxe carbone sur l'importation de tel produit, ça suffit, je suis prêt à payer plus cher le paracétamol parce que je veux être autonome, comme on l'a fait sur le militaire, la défense. La défense, c'est une industrie de souveraineté, on a des coûts qui sont très élevés, et ça n'empêche pas les marchés de fonctionner.
Mais la différence, c'est que c'est pas le consommateur ou le Français lambda qui achète des produits.
Vous voyez bien que quand un État met des bonus, donc payés par les contribuables, sur le prix qu'il faut
ça
mettre,
ça modifie le comportement des consommateurs.
Exactement. Le prix qu'il faut mettre, même de façon temporaire, pour avoir des véhicules à batterie électrique, même qu'on fabrique en Chine. Il y a un moment, on mettra même le prix, je suis prêt à le parier Dominique Seux, on mettra le prix de la relocalisation des batteries en France pour payer, se payer la proximité. Donc le prix mondial une religion qui est temporaire et qui sera révisée par des peuples qui diront ma priorité c'est ceci, ma priorité c'est cela. Et sur l'alimentation, la remontée des prix agricoles, elle est en train de fonctionner. Quand vous avez C'est qui le patron qui arrive à prendre des parts de marché à toutes les coopératives, Candia, etc., en disant bah, « je donne 5 centimes de plus au litre à l'agriculteur », c'est une remontée du prix sur une matière première agricole qui n'a aucune valeur ajoutée transformée. Et pourtant, les consommateurs suivent parce qu'ils en ont marre de voir les agriculteurs souffrir et faire faillite, finalement.
Mais
et donc, vous Arnaud voyez Montebourg, bien que le prix mondial, c'est quelque chose qui est une religion dans les métiers mondialisés. Mais dans les métiers de proximité, alors je vous les donne, hein, vous avez le militaire, vous avez tout ce qui est technologique à forte valeur ajoutée, l'alimentaire, la santé, l'énergie, le transport, les télécoms, tout ce qui est stratégique, on va reprendre la main.
Mais
et donc
pour
les
le reste,
prix vont pas être
pour le reste les ça veut quand même dire on va la question c'est on ne va pas tous devenir plus pauvres en fait parce que eh ben il va falloir consacrer plus d'argent pour acheter de l'électroménager peut-être malgré tout nos voitures le budget de l'alimentation dans nos budgets celui des ménages ben va devoir augmenter. Non.
Oui, mais parce que vous faites de la macroéconomie. Et donc, vous dites, bon, bah, plaquons le modèle protectionniste intégral. Mais ça, ça n'existe pas.
Ah, je dis rien
tous
du
les
tout.
Produits. Non, mais je prends cet exemple parce que vous plaidez le contre pour obtenir mon pour. En fait, ça n'existe pas. Tous les pays ont une dose de protectionnisme et de libre-échangisme. Mais il va falloir maintenant que la France, qui est le pays le plus ouvert de l'Union européenne, et l'Union européenne étant elle-même la zone mondiale la plus ouverte du monde, eh bien, il va falloir que nous prenions des mesures de protection parce qu'on en a besoin. Je vous signale que nous avons 1400 médicaments qui, dès 2018, étaient en rupture. Donc, on a abandonné les commodités parce que nos majors du médicament allaient là où il y avait des brevets.
Donc,
c'est normal.
Arnaud Montebourg, ça ira bien au-delà du paracétamol. On va assister dans les années qui viennent à un certain nombre de basculements.
Mais regardez,
quand on regarde les chiffres depuis une dizaine d'années, on ne voit pas qu'il y a un mouvement de démondialisation très fort. Il y a effectivement une baisse de 5 points. On peut prendre un indicateur, c'est le total des exportations et des importations rapportées au PIB mondial. Bon, mais il y a effectivement une baisse de quelques points, mais il n'y a pas une vraie démondialisation. Vous pensez que ça va changer?
Ah bah la guerre commerciale Trump Xi Jinping est un accélérateur, la crise de 2008 a été le déclencheur et le Covid est un deuxième accélérateur. Je voudrais parler concrètement pour nos auditeurs qu'on reste pas sur des grandes mais regardez ce que fait le Japon. Le Japon a mis 2 milliards pour subventionner des fermetures d'usines en Chine et les ramener, les réouvrir au Japon sur le territoire national japonais. Ce qu'on devrait faire hein. Moi c'est la proposition que je demande ici à votre micro au ministre de l'économie monsieur Bruno Le Maire. C'est ça qu'on doit faire. On doit aller voir les boîtes Schneider, toutes celles qui se sont ruées en Chine en leur disant, écoutez, les amis, il y a un certain nombre de productions qui seraient parfaitement compétitives en France. On vous paye l'investissement. Donc déjà, c'est tout à fait compétitif dans le bilan et le business plan qu'on peut faire d'un retour sur le territoire national. Ils ont mis 2 milliards, dont les trois quarts des dépenses sont prises en charge pour une réouverture de l'investissement et le coût de l'investissement perdu en Chine.
D'accord, donc il faut suivre le modèle. Deuxièmement, les coopératives.
Coopératives, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'on n'est plus sur des niveaux de rentabilité du capital investi aussi élevés que le demanderait, par exemple, une major de la pharmacie, qui demande du 15-20%. Et donc, si on fait une coopérative avec la Sécu, avec les mutuelles, et on peut reprendre toutes les commodités, le paracétamol, c'est pas grave si on gagne pas l'argent, mais au moins on sera autonome et on aura des emplois en France.
J'entends vos propositions.
Troisième proposition, la commande publique. La commande publique, on a 100 milliards sous le pied, on ne l'utilise pas à des fins patriotiques. Ce que font les Allemands et les Italiens. Qu'est-ce qu'on a droit équivalent? Qu'est-ce qu'on attend en France pour restructurer tout le droit de la commande publique?
Et j'entends vos trois propositions. Un dernier point avant de passer à la France, concrètement. Quand même, est-ce que vous avez dû manifester dans les années 80 en tant qu'étudiant pour, en disant, le Nord exploite le Sud? Voilà. Les pays riches exploitent les pays les plus pauvres en développement, etc. Les PVD. Voilà. Est-ce que vous dites pas quand même, au fond, cette mondialisation-là, elle a quand même permis à des centaines de millions de gens de sortir de la pauvreté et eux, ils n'ont pas tellement envie, en fait, que ça se démondialise. Parce qu'ils ont tiré quand même un grand avantage et on les comprend, ils vivent mieux.
Bah, d'abord, c'est
ça
pas
vous
vrai.
Fait pas un peu mal au cœur,
bah,
quand même, non?
D'abord, c'est pas vrai pour l'Afrique, ce que vous dites. C'est la démonstration contraire. La mondialisation a précipité l'Afrique dans encore plus grande pauvreté. C'est pas vrai pour toute l'Asie. Ce que vous dites, c'est vrai pour la Chine et quelques tigres, mais c'est pas le cas de la totalité de l'Asie. Il suffit de regarder ce qui se passe et de faire les comptes, hein, on peut le faire. Mmh. Et puis, je suis pas non plus d'accord sur le fait que la Chine n'a pas compris que le monde allait démondialiser. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils privilégient leur marché intérieur. Ils passent d'une économie extravertie vers une économie beaucoup plus tournée vers eux-mêmes, donc en distribuant du pouvoir d'achat, créant une protection sociale, une protection environnementale. Donc, on est en train de revenir à un équilibre. La mondialisation n'aura été qu'une période, j'allais dire, temporaire. Et nous allons maintenant revenir à des économies continentales, peut-être pas nationales, mais des économies continentales. Où c'est on va défendre nos modèles sociaux et environnementaux. Les Européens, qui sont en train de se faire dépecer par les deux empires, la Chine et l'Amérique, ont intérêt à organiser leur défense. Et y compris dans la guerre commerciale, à prendre des positions extrêmement offensives. On n'a pas réussi. Moi, j'étais au gouvernement, j'avais mis un lit de camp à Bruxelles pour essayer de convaincre mes collègues sur la question industrielle et du protectionnisme. J'y suis pas parvenu à l'époque.
La nouvelle commission évoque l'idée d'une taxe carbone. Alors, c'est plus le nom, on a changé de nom parce que ça fait peur, le mot taxe, mais il y a cette idée-là.
Une taxe sur les autres, moi, ça me gêne pas. C'est la taxe sur les Européens, le problème.
On ne sait pas très bien si ça va être mis en œuvre. Les Allemands étaient plutôt contre ces dernières années. Est-ce qu'il y aura un changement?
Mais parce que l'Allemagne est gouvernée par son industrie automobile, qui est exportatrice. Mais elle va l'être de moins en moins dans la guerre commerciale actuelle. Et donc, il va bien falloir que l'Allemagne aussi, qui est une économie excessivement extravertie, tournée vers l'exportation, elle-même revienne à une taille normale, qui est celle de son marché intérieur. Et la pression qui a été mise pendant 15 ans sur les salaires allemands va devoir maintenant évoluer. Il va falloir réinvestir en Allemagne. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a un plan de relance aussi important. C'est parce que faut refaire les routes, faut réinvestir dans l'industrie d'avenir et distribuer aussi un peu de salaire.
Quelques questions sur la France avant de passer la parole à nos étudiants. Est-ce que le gouvernement, Emmanuel Macron en l'occurrence, a eu la bonne politique, la bonne réponse dans la crise, en mettant en place un chômage partiel massif, des prêts de trésorerie aux entreprises, on le disait ultra-libéral, néolibéral, ça fait encore plus peur. Est-ce qu'au fond, il n'a pas été assez pragmatique dans cette affaire-là?
Alors, le point positif, c'est le chômage partiel, qui a pris la bonne proportion. Je rappelle qu'en 2008-2009, au moment de la crise financière, les Allemands avaient mis 10 fois plus de chômage partiel que nous. Ils ont gardé leur industrie, nous on l'a perdu. Donc ça, c'est positif, parce que là, on a pris la mesure. Mais sur le soutien aux entreprises qui sont menacées, on distribue de la dette, c'est-à-dire des prêts garantis d'État, qui pour moi vont fabriquer des entreprises mortes vivantes, des zombies, qui surendettées, qui vont finir par tomber. Donc pour moi, il faut faire des subventions aux TPE, il faut faire des prêts obligataires qu'on peut convertir en capital, parce que les entreprises ont besoin de fonds propres, elles n'ont pas besoin de dette, elles en ont trop déjà. Et donc, il faut faire pour les ETI et les PME des prêts obligataires convertibles en capital. Et puis, pour les grands groupes, il faut prendre des participations systématiques. Je ne suis pas pour que l'État entre dans toutes les entreprises. Je suis pour que l'État convertisse les prises de participation en capital en actions en faveur des salariés, qu'il les redonne aux salariés. Ça permettrait de rééquilibrer la gouvernance des entreprises, mieux partager la richesse quand les entreprises reviendront à meilleure fortune. C'est une vision, d'ailleurs, d'un nouveau compromis entre finalement, le capital et le travail, qu'il va falloir inventer à la faveur d'une réforme profonde de notre économie dans la période actuelle. C'est ma proposition, en tout cas.
Dans quelques minutes, vous allez répondre aux questions des 4 étudiants et étudiantes qui sont dans le studio. It was early morning yesterday. I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Now I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as they shiver out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few. Goodbye, stranger, it's been nice. Won't you C'était Goodbye Stranger de Supertramp. N'y voyez pas un rejet de l'étranger et de la mondialisation. Le programmateur manifestement travaille au second degré.
L'écho de l'été sur France Inter.
Nous sommes toujours en compagnie d'Arnaud Montebourg et maintenant, comme promis, la parole aux étudiants. Alors, qui pose la première question ?
Oui, bonjour Monsieur Montebourg, je m'appelle Léonore, je suis étudiante à l'ESSEC. J'ai une question pour vous, vous êtes proche du secteur agricole à travers vos structures. Vous connaissez leurs souffrances qu'ils expriment depuis quelques années. Quelles attentes vous avez du nouveau gouvernement et comment le soutenir ?
Je crois qu'on a un problème de politique agricole commune. C'est-à-dire qu'en fait, l'agriculture aujourd'hui a été placée sur le marché mondial sans aucune protection. Les quotas laitiers, les mesures de dégagement d'office, tout ce qui existait sur les grandes productions agricoles françaises a été démantelé. Donc on se retrouve avec des agriculteurs qui ont des aides forfaitaires avec des prix qui sont à compétition mondiale. Et donc vous avez un problème de compétitivité de l'agriculture française telle qu'elle est organisée aujourd'hui.
Mais donc c'est au niveau européen que ça se
oui,
traite.
Ça se travaille au niveau européen. Quand vous avez des exploitations d'Amérique latine de 300 000 hectares avec un ingénieur agronome pour 1000 hectares et que eux disent vous jardinez, nous on nourrit le monde avec des OGM, du pesticide, la déforestation, vous voyez bien que ce modèle-là, notre modèle de la polyculture familiale de bocage, qui est quand même la structure dominante foncière et agricole française depuis la Révolution française, ne peut pas résister. Donc nous avons beaucoup perdu dans le démantèlement de la PAC. Mmh. Et ce qui reste de la PAC ne suffit pas. Et on a vécu des plans sociaux dans l'agriculture qui valent bien ceux de la sidérurgie. Donc on n'a pas 36 solutions. Soit on revient à des modèles vertueux et avec une remontée des prix agricoles, et on organise la solidarité de la société, la grande distribution, le consommateur, pour assurer la garantie de prix pour nos agriculteurs. Et là, c'est une forme de protectionnisme assumée au sein de la PAC. Et le bio peut entrer dans ce cadre-là. Hein, on importe quand même 65% de nos fruits et légumes. Il y a quand même un tout petit problème par rapport à ce qu'on a laissé mourir de notre arboriculture, de notre horticulture et de tout ce qui va avec. Donc nous avons là un champ de reconstruction qui est considérable. Mais ça suppose d'assumer une forme de protection vis-à-vis de l'extérieur, y compris au sein de l'Union européenne.
Ça peut se faire pendant la présidence allemande, ce genre de choses ou pas ?
Ben, les Allemands, eux, ils sont très offensifs sur l'agriculture, puisqu'ils ont des systèmes extensifs que nous n'avons pas, notamment sur l'élevage. Mais sur les végétaux, on a des choses à défendre. Et je rappelle qu'il y a encore quelques années, nos blés étaient très compétitifs. Ils ne le sont plus en qualité parce que les qualités protéiniques des blés de l'Est de l'Europe, vers l'Oural, l'Ukraine, toutes ces grandes plaines, sont à peu près d'un niveau équivalent, mais ils sont moins chers parce que les coûts de production sont moins élevés. Donc on a là à réfléchir à la réorientation du modèle agricole. Ce n'est pas pour rien. Vous avez, si je peux employer cette expression, une épidémie de conversion vers le bio.
Vous êtes intéressable sur ce sujet.
C'est vrai, je suis passionné surtout.
On va prendre une autre question. On va prendre une autre question.
Bonjour, monsieur Montebourg.
Bonjour.
Je suis Orlane Janvier, étudiante à Sciences Po Aix. Vous avez mentionné précédemment que vous avez lancé votre marque de glace 100% équitable et bio. Et force est de constater que le respect de l'environnement est une variable qui est de plus en plus prise en compte par les entreprises et qui est désormais importante pour les consommateurs, comme on a pu le voir avec les municipales. Ma question est la suivante. Pensez-vous que toutes les entreprises peuvent respecter l'environnement et que à long terme, est-ce que c'est possible et qu'à long terme, ce serait viable?
Je crois qu'elles y ont un intérêt. D'abord parce que elles investissent dans le futur, comme les États, comme les consommateurs, ils se posent la question de leur futur, de leur santé, de toutes ces questions. Donc c'est un investissement. Elles peuvent, elles ont les moyens de le faire, c'est-à-dire qu'elles peuvent trouver des solutions technologiques, d'innovation technologique pour résoudre les problèmes qui donnent l'impression d'être insolubles. Et surtout, elles ont le temps pour elles, parce qu'elles sont installées sur leur marché, elles s'adressent à des clients qui sont capables, eux aussi, de les accompagner dans les innovations. Regardez l'évolution d'une entreprise comme Danone, qui est presque une entreprise de santé public. Elle se présente comme ça, mais elle n'a pas tout à fait tort. Elle a travaillé ce qu'on appelle dans la grande distribution toutes les substances controversées.
Et nous recevions justement Emmanuel Faber la semaine dernière. C'est vrai que vous n'avez pas la réputation, et je suis la question, d'être à fond sur les questions climatiques ou environnementales. Vous êtes plutôt un écolo-productiviste,
Je dirais que je suis un écologiste modéré. C'est-à-dire que je voudrais que l'écologie puisse contaminer toute la société et l'économie pour qu'elle progresse. Donc pour ça, on ne peut pas abandonner la question de la productivité. Parce que si comment va-t-on financer, on a financé en France ce modèle social par des efforts de productivité très importants.
Mais c'est presque quelque chose qu'on n'a plus le droit de dire aujourd'hui.
Non, mais moi je le dis, excusez-moi Dominique Seux. On a financé le modèle social par des efforts de productivité. Comment on a financé les 35 heures dans les entreprises? Les salariés, ils ont travaillé plus dans un temps qui était limité. Plus limité. Eh bien, c'est la même chose sur la transition écologique. Il va bien falloir le financer par des innovations technologiques, des efforts de productivité dans des secteurs en croissance, pour financer des secteurs où il y aura plus d'emplois. Par exemple, l'agriculture bio, c'est plus d'emplois, c'est des prix plus élevés, c'est moins de compétitivité. Donc, il va bien falloir compenser ceci par cela. Donc, quand on a une vision cohérente de l'économie et de l'écologie, pour moi, qui suis depuis très longtemps convaincu, quand j'étais à Bercy, j'ai lancé des plans sur les immeubles en bois, toutes les énergies renouvelables qu'on
il
a soutenues et financées,
la chimie verte,
etc. Donc, on a besoin de marier l'écologie avec tout le reste de la société et toutes les activités humaines.
Question.
Bonjour Monsieur Montebourg.
Bonjour.
Je m'appelle Gauthier et je suis étudiant à Sciences Po. Moi, je voulais vous parler. Vous avez parlé en première partie des relocalisations qui pourraient favoriser l'emploi. Moi, j'aimerais vous parler de l'emploi des futurs emplois plutôt des jeunes qui, comme moi, comme nous sommes étudiants, on est tous les quatre étudiants. On va bientôt rentrer dans le monde du travail. Avec la crise actuelle, ça s'annonce compliqué pour trouver des emplois, et forcément pour nous, mais pour beaucoup de jeunes. Donc qu'est-ce que vous pensez, vous êtes entrepreneur, vous avez été ministre de l'économie, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour favoriser l'insertion des jeunes comme nous qui vont rentrer bientôt dans le monde du travail?
D'abord, vous allez avoir le sujet de tous ceux qui vont perdre leur emploi, puis tous les entrants que vous êtes. Donc ceux qui perdent leur emploi, ceux qui sont dans des secteurs où on va décider qu'il faut arrêter le moteur thermique, faut diminuer le transport aérien, faut ceci, faut cela, il faut assurer des garanties d'emploi. Donc il faut reconvertir et protéger les gens. Parce que sinon, il n'y aura pas de transition écologique. Ça va être la guerre et les gilets jaunes partout. Ça va être les gilets verts ou anti-verts. Je ne sais pas comment dire. Bon, quant aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail, on a un déficit aujourd'hui de création d'emplois. J'espère que l'économie va repartir. Elle a l'air d'être bien reparti, mieux qu'on ne l'espérait. Mais là, le tarif de la crise du Covid, pour moi, c'est au minimum 2 millions de chômeurs. Entre ceux qui ont perdu leur contrat et ceux qui n'arrivent pas à en trouver un nouveau, donc il va falloir qu'on crée des emplois, tout
et
simplement.
Alors, vous avez une idée à mettre sur la table
il va falloir
pour
investir
l'emploi
massivement
des jeunes.
Dans les jeunes. Il va falloir, tous les emplois qualifiés, il va falloir investir massivement dans les nouvelles activités. Donc ça va prendre du temps, mais il va falloir le faire. Moi, je suis surpris de voir que dans l'agriculture, on n'a pas investi dans le chanvre. Et dans le chanvre, c'est la plante magique. Pas besoin d'intrants, pas besoin d'eau. et qui sert, qui fait du plastique, qui remplace le coton. Enfin, c'est la plante. On ne fait pas, on n'a pas du tout investi là-dedans. Dans l'énergie, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas fait le même plan que les Allemands sur l'hydrogène. Là aussi, vous avez des entreprises parfaitement capables de le faire.
Ça se fait au niveau européen et ça a été annoncé ce jeudi.
L'Europe le fait, l'Allemagne le fait, la France toujours pas. Bon, donc on va avoir à inventer des nouvelles activités pour donner du travail. Et puis sinon, de toute façon, on va retrouver les emplois jeunes. Vous allez voir, on va être obligé d'y revenir. Parce que c'est une bonne formule pour ne pas laisser les jeunes du côté de la route. Et regardez ce que fait le Danemark. Regardez
donc, ce que font tous ces pays. Vous posez ça sur la table, le retour des emplois jeunes. Dernière question.
Bonjour Monsieur Montebourg, je m'appelle Agathe et je suis étudiante à l'ESJ Lille. Ma question, je voudrais rebondir en fait sur ce qui vient d'être dit. On parle des jeunes, vous parliez tout à l'heure des consommateurs, vous pensez a priori qu'ils sont prêts à payer plus pour manger mieux, pour manger bio et qui permettrait de rémunérer mieux les producteurs. Ma question, c'est quand on est étudiant, on n'a pas forcément les moyens d'investir là-dedans. Ça coûte moins cher de consommer de la viande qui va être peut-être importée, etc. Comment vous faites pour nous aider, nous ? Quelles sont vos propositions ?
Écoutez, je n'ai pas de proposition programmatique à vous offrir. Je peux juste vous dire que la question du pouvoir d'achat de la jeunesse est un vrai sujet. Une chose est sûre, c'est que je ne propose pas des allocations du début à la naissance jusqu'à la mort. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une prise en charge, et je le dis à mes propres enfants, une prise en charge de sa responsabilité de vie. Et donc, il faut un petit peu travailler, il faut augmenter les bourses, et il faut faire en sorte qu'il y ait des facilités pour les étudiants. C'est ce qui n'existe pas. Le logement est hors de prix. C'est un poids considérable. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, nous
donc
avons
c'est
des problèmes
sur le
de pouvoir de vivre,
l'accent.
C'est là-dessus le sujet. Si le pouvoir de vivre aujourd'hui est à ce point obéré, pour des gens qui travaillent et qui ont des salaires complets et qui n'arrivent pas à se loger, c'est parce que le logement coûte 40% à peu près de votre pouvoir de vivre. Dans les années 60, on utilisait son pouvoir d'achat à hauteur de 25% pour se nourrir, et beaucoup moins sur le logement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 10% pour se nourrir et 40% pour se loger. Donc on a un problème. Moi, si j'étais...
Donc c'est un problème sur le logement.
Non, mais c'est un sujet fondamental, faire monter le prix de l'alimentation et faire baisser le prix du logement.
Arnaud Montebourg, pour finir, quelques petites questions. Vous répondez par oui ou par non, ou avec une demi-phrase d'explication, mais pas plus. Fallait-il fermer Fessenheim ?
Oui, parce que de toute façon, c'était engagé.
Faut-il faire la réforme des retraites ?
Je ne connais pas la réforme des retraites, j'ai toujours pas compris, donc je m'abstiens de répondre.
Les régimes spéciaux de retraite, SNCF et RATP, sont-ils justifiés ?
Sur la réforme des retraites, pardon d'avoir l'esprit d'escalier, je vous dirais que c'est certainement pas en réattaquant, en ouvrant un conflit dans la société, qu'on traitera les problèmes. Donc pour moi, il ne faut pas faire de réforme des retraites. On a le sujet du chômage qui est la priorité.
Croyez-vous à la sincérité allemande sur la solidarité, les engagements de Berlin nouveaux, le virage allemand qui a été fait ? Est-ce que c'est son intérêt seulement ou il y a un peu de sincérité ?
C'est son intérêt que le reste de l'Europe ne s'écroule pas et que l'Europe reste arrimée à elle-même. Donc
c'est oui et non.
L'Allemagne a son intérêt dans cette affaire.
Des voitures électriques chinoises débarquent en Europe en ce moment, c'est bien ou c'est pas bien ? Elles sont moins chères.
C'est mal. Nous devrions les taxer pour favoriser la naissance d'une industrie de la batterie en France et en Europe.
Et le PS pourra-t-il avoir un candidat en 2022 ou devra-t-il se rallier aux Verts ?
Je n'en sais rien.
Merci à vous. Arnaud Montebourg, c'est presque la fin de cette émission. Merci aux étudiants aussi. Et si on écoutait maintenant Croix au printemps, M. Mathieu Chédid, te souviens-tu du temps de nos confinements ?
Te souviens-tu du temps de nos confinements ? J'étais triste et hagard, ne sachant plus vraiment si les jours reviendraient des grands rires et du vent. Tu m'as dit doucement qu'on avait en deux temps toutes les solutions à nos questionnements. Absent. vraiment. Si les jours reviendraient des voyages et des chants, tu m'as dit simplement qu'il y avait là-devant toutes les solutions à nos questionnements. Reprends l'amour comme on croit. Chacun, comme on croit au présent, crois en ton cœur, comme on croit aux absents. Te souviens-tu des jours de nos confinements? J'avais les larmes aux yeux, ne sachant plus vraiment. Tu m'as dit tendrement que j'avais maintenant toutes les réponses à mes questionnements.
La semaine prochaine, nous recevrons Nicolas Théry, le patron du groupe Crédit Mutuel CIC, au parcours atypique, majeur de l'ENA. Il a travaillé aussi à la CFDT et à la Commission de Bruxelles. La finance, ami ou ennemi, eh bien, on verra. Merci à Élise Christophe, à la technique, Vera Louderide pour la préparation de l'émission, Hélène Biziot à la réalisation et au Cercle des économistes pour avoir proposé les étudiants de ce jour. Merci à tous. À samedi prochain.